Et Jésus, ici, bien, va nous rappeler ce matin qu'il est le bon berger. On relit Jean 10, verset 1, on lira jusqu'au verset 18, si vous voulez. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutées. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des récits, bien sûr, les plus imagés pour nous, mais certainement aussi pour nous, ce qui nous fait comprendre un peu plus, un peu mieux, le caractère de Jésus, quand il dit « Je suis le bon berger ». En français, l'adjectif « bon », eh bien, peut se décliner sous différentes définitions. Il y en a quelques-unes, par exemple, c'est qui est conforme à la norme. Voilà. Hein, il parle un bon français. Ce qui est agréable, hein, je pense à Églantine, quand elle nous fait de bons gâteaux. Voilà. Elles ne font pas long feu, ces bons gâteaux. Voilà. Hein, ce qui est agréable, savoureux, délicat, ajoutez tout ce que vous voudrez, etc. Qui est aussi parfois important en quantité, en qualité, une bonne grippe. Déjà, une bonne grippe, hein, ça vous cloue au lit, une bonne grippe, et là, ben, c'est quelque chose, bien sûr, qui est intense, et puis, bien sûr, c'est quelqu'un qui est bienveillant, hein, pour, par exemple, une bonne personne, etc., etc., et puis, aussi, bien sûr, qui représente une qualité supérieure à la moyenne, un bon élève. J'espère que vous avez été un bon élève, on va voir un bon film, voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie, et le vocabulaire est assez riche quand même en français, mais on va voir que dans l'original, il y a aussi des vérités qui vont nous rappeler ce matin bien quelques aspects du caractère de ce bon berger, hein, Jésus le bon berger. La première pensée, bon, ça veut dire bien choisi. Le berger bien choisi, le berger bien choisi. On sait tous ce matin que nos choix, eh bien, sont déterminants dans nos vies. D'ailleurs, si on voulait imaginer notre vie, on pourrait dire que c'est une succession de choix. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on choisit. Alors, des fois, c'est rapide, c'est inconscient. Vous faites vos courses, vous avez votre liste de courses, etc. Vous avez préparé. Bon, il n'y a pas trop de conséquences si vous vous trompez de paquet de pâtes, etc., si c'est telle marque ou telle marque, bon, voilà. Par contre, il y a des choix beaucoup plus décisifs, hein, qui vont avoir une influence sur notre vie. Et concernant Jésus, eh bien, Pierre nous rappelle, par exemple, que lui aussi a été choisi. Jésus, le bon berger, qui a été bien choisi. Dans 1 Pierre 2,4, il est rappelé ceci, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Jésus a été choisi de Dieu pour devenir le bon berger qui est bien choisi. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi particulièrement Jésus, hein, comme le choix de Dieu pour être le bon berger? Eh bien, encore, Pierre va nous révéler quelque chose d'important. 1 Pierre 2,20, sachant que ce n'est pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et la suite, hein, nous dit ceci, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Le bon berger, bien choisi par son Père Céleste, on apprend au moins deux choses de ce que Pierre nous rappelle ce matin. C'est que le choix de Dieu s'est porté sur Jésus avant la fondation du monde. Je ne sais pas comment vous réalisez. Moi, ça me donne un petit peu le vertige dans la préscience de Dieu, dans sa conscience, etc. Hein, avant la création. On pourrait même dire à vérifier là-haut que même avant la création du monde céleste, des êtres célestes, eh bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui était là, eh bien, avait déjà décidé de ce choix. En tout cas, avant la fondation du monde, hein, la création d'Adam, d'Ève, etc., eh bien, le moyen de salut avait déjà été choisi. Jésus était le berger bien choisi. Dieu ne s'est pas laissé surprendre par la désobéissance d'Adam, de Ève. Dieu ne s'est pas laissé surprendre, oh là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, l'homme, on réagit de cette manière. Lundi, on a eu le contrôle des extincteurs, et puis donc, je parlais avec le responsable, justement, de ce drame de Grand Montana, en Suisse, et il me disait que depuis ce drame, en France, sur Mulhouse, ils ont fermé 4 ou 5 bars. Sur Belfort, je crois, c'est plus d'une trentaine. Voilà. Et je lui disais toujours, malheureusement, ben c'est ça, hein, on réagit toujours, une fois qu'il y a accident, ben, on serre la vis et on contrôle. Et il m'expliquait qu'effectivement, même en cas de contrôle d'extincteur ou d'électricité, eh bien, ces organismes n'ont pas un pouvoir de fermer. Il dit simplement, voilà, il faut corriger ceci, il faut corriger cela. L'année d'après, on revient, il faut corriger ceci, corriger cela. Il n'y a que les pompiers ou la mairie ou le préfet qui peut fermer un établissement. Et parce que l'homme réagit comme ça. Après un accident, après une catastrophe, eh bien, on met en place de... Mais Dieu, lui, il a anticipé avant. Jésus a été choisi avant. Il est le bien choisi. Et puis le choix de Dieu s'est porté sur Jésus, parce que pour être bon berger, on l'a lu tout à l'heure, il est devenu l'agneau de Dieu. Il est devenu agneau. Il est devenu ainsi, pour être bon berger, il est devenu l'agneau. Ça, c'est le grand mystère de la vie éternelle. C'est le grand mystère, là aussi, de Jésus qui, pour être un bon berger, bien choisi, est obligé de devenir d'abord un agneau. Et un berger qui devient agneau, bien sûr, ce matin, nous assure d'une compréhension totale. Jésus est celui qui connaît le mieux, d'ailleurs il le dit plusieurs fois dans ce texte, c'est ses brebis, ses agneaux, tout son troupeau, parce qu'il est devenu lui aussi agneau. Un seul regard finalement de Jésus sur nous, bien, c'est très bien détecté en nous un soupir peut-être de malaise, une blessure, quelque chose qui ne va pas dans notre démarche. Quelque chose là aussi qui se manifeste dans notre comportement, parce que Jésus a été agneau et le bon berger, eh bien, est devenu agneau. Et ce matin, cela nous assure de sa part une des plus grandes compréhensions. Et il y avait une émission, je ne sais pas si ça passe encore. C'est alors j'ai plus le titre. C'est le patron qui devenait ouvrier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, hein. C'est très intéressant. Donc, il y avait une séance de maquillage, voilà, le patron, et puis il se faisait passer pour un ouvrier qui commençait et qui débutait. Alors, c'était très intéressant, hein, d'avoir cette vision de l'intérieur. Parce que parfois, il y avait des responsables qui traitaient vraiment ces nouveaux venus un petit peu comme des personnes de seconde zone, etc. Et puis d'autres qui étaient vraiment attentifs. Et à la fin de l'émission, c'était la surprise. Hein, on convoquait ceux qui avaient formé ou ceux qui avaient été formés. Et là, ils étaient devant le patron. Alors pour certains, c'était une découverte extraordinaire. Et le patron, eh bien, voyant que cet ouvrier était dévoué, lui offrait un stage, une promotion, etc. Par contre, ceux qui avaient été malveillants, etc., là, c'était un autre rapport qui s'installait désormais. Jésus a été bien choisi. Et ce matin, Jésus nous rappelle, eh bien, je suis ton bon berger. Je suis ton berger bien choisi et je te connais. Et je connais exactement ce que tu traverses parce que moi aussi, eh bien, je suis devenu l'agneau de Dieu. Une deuxième pensée, le bon berger, bon, ça veut dire également excellent dans sa nature. Excellent dans sa nature. Si on revient à notre enfance, je ne sais pas quelles appréciations vous aviez sur vos copies, hein, sur vos devoirs, ou voire même sur vos cahiers de correspondance ou vos bulletins trimestriels, mais quand on avait un excellent, surtout quand on n'avait pas beaucoup avant et après, là on était fiers. Hein. On apportait tout de suite le carnet aux parents ou la copie, regarde hein, ce que le prof de maths m'a dit, ce que l'institut m'a dit. Excellent, excellent. Ça nous a certainement marqué et on était fiers. Parce que excellent, bien c'est très bon, c'est de très haute qualité, c'est admirable, c'est merveilleux, c'est parfait. C'est parfait. Jésus est l'excellent dans sa nature. Et il y a le texte d'Ésaïe 9:5 qui a été écrit quand même environ 700 ans avant la venue de Jésus. Là aussi, c'est quelque chose qui nous donne un peu le vertige, hein, la précision de Dieu dans l'aspect prophétique au travers de ses prophètes. 700 ans. Toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est 9:5 et après la suite nous dit ceci, parce que ça dépend des fois de la traduction. Concernant Jésus, est-ce que tu l'as après ? Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, excellent, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, ou prince de la paix. Et ce matin, eh bien, Jésus, le bon berger, il est excellent dans sa nature. Ça veut dire quoi ? Eh bien, il est parfait dans ce qu'il est, il est parfait dans ce qu'il dit. Avec Jésus, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de flatterie, il n'y a pas de choses qui sont cachées, il n'y a pas de choses qui sont dites par derrière, etc. Jésus est excellent dans sa nature, le bon berger est excellent dans sa nature. Et c'est pour cela qu'il est dit que les brebis, eh bien, le connaissent de cette manière. Elles le connaissent, elles ne suivront pas un étranger. Pour bien comprendre le sens de cette parole, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore dans certains pays, eh bien les bergers pouvaient parfois confier leurs troupeaux à un ou des gardiens. Ils avaient un grand enclos, voilà. Et pour que le berger aille peut-être chercher une brebis perdue, pour qu'il aille faire quelques affaires ou alors tout simplement chercher des nouveaux pâturages, eh bien, il confiait son troupeau à un ou des gardiens, voilà, pendant quelques jours, quelques nuits. Et puis, donc, lui, il partait. Il partait. Et quand il revenait, au milieu de tous ses troupeaux, eh bien, il lui suffisait simplement d'appeler ses brebis par leur nom. C'était une coutume qui se faisait en Israël, et au son de la voix, rien que même simplement la présence du berger, eh bien les brebis suivaient leur berger, les autres ne bougeaient pas. Les autres ne bougeaient pas, elles étaient habituées à leur berger, elles entendaient sa voix, et elles pouvaient ainsi sortir en toute tranquillité à la suite du berger. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais lorsqu'on a été en Écosse, alors que notre fille Didi était toute petite, je sais pas, elle avait quoi, 10 ans là. Hein, il y a des troupeaux à perte de vue là-bas, des troupeaux de moutons, etc. Et apparemment, ils sont tout seuls, etc. Alors, on était dans une route déserte, il y avait des troupeaux, il fallait rouler doucement parce qu'il y avait des moutons tout autour de la voiture. Et Lydie, qui a 10 ans, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Papa, je veux ramener un mouton dans la voiture pour rentrer chez moi. C'est extraordinaire quand même. Hein. Je ramène un mouton. Ok, bon, bah alors. Elle ouvre la porte doucement, les moutons sont encore là. Et puis, c'est une enfant de 10 ans, il n'y a pas de danger, etc. Donc voilà. Et puis, elle commence à s'approcher d'un mouton, mais plus elle s'approche, plus le mouton il s'en va, etc. Alors, je lui essaye de lui parler en anglais, peut-être qu'il ne comprend pas le français, mais enfin, bon, voilà. Mais non, elle aurait pu mettre le chapeau du berger, elle aurait pu mettre la cape du berger, etc. Même un enfant de 10 ans, eh bien, les moutons ne la connaissaient pas. Et donc, eh bien, il s'en allait. Donc, on n'a pas ramené de mouton. D'ailleurs, je lui avais dit, écoute, on en fera un méchoui. Oh non, papa, pas un méchoui avec le mouton. Bon, mais on n'a jamais ramené de mouton. Voilà. Donc, parce que les brebis ne la connaissaient pas. Parce que les brebis ne la connaissaient pas. Dans Jean 6, 66-68, il y a un moment dans la vie des disciples, Jésus qui va annoncer, bien sûr, ce qu'il va accomplir sur la croix, etc. Et puis là, certains vont dire, mais ces paroles sont dures, hein, qui peut les écouter ? Et dès ce moment, plusieurs se retirèrent de ses disciples. Ils n'allaient plus avec lui. Alors Jésus se tourne vers les 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Connaissez la réponse ? Ah non, ne m'aimez pas. Est-ce que vous connaissez la réponse des disciples ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais Seigneur, c'est toi, c'est ta parole. Au son de ta voix, on te connaît. Excellent dans sa nature. Excellent dans ce qu'il dit. Excellent dans ce qu'il est. Hein, il y a un chant que les jeunes pourraient vous chanter ce matin. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Hein, il nous connaît. Et nous, eh bien, on connaît sa voix. Jésus est le bon berger qui est excellent par sa nature. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, il nous connaît, cela nous garantit, comme on disait tout à l'heure, une compréhension totale de ce que nous sommes, de ce que nous sommes. Parfois, on n'est même pas en accord avec nous-mêmes. Hein. On se dit, waouh, qu'est-ce que j'étais encore dire ? Qu'est-ce que j'étais encore faire ? Qu'est-ce que j'étais encore penser ? Et on est mal à l'aise. Et on est mal à l'aise. Mais Jésus le sait, le bon berger, qui est excellent par sa nature. Et il nous rappelle ce matin, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et qu'elle l'ait en abondance. Nous ne sommes pas en mode survie avec Jésus, hein, mais on est en mode vie éternelle. Et ça change tout, hein, dans notre état d'esprit, dans notre mentalité. Troisième expression, bon, ça veut dire beau en raison de la pureté de son cœur et de sa vie. Jésus, le bon berger. Ça veut dire eh bien, qu'il est beau en raison de la pureté de son cœur et de la pureté de sa vie. Pourtant, la Bible nous dit qu'ici-bas, eh bien, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous. Je ne sais pas comment vous vous représentez hein, physiquement Jésus. Alors, on a vu des films, il y a des images, etc. Bon, mais en tout cas, la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Il serait au milieu de nous ce matin habillé comme vous et moi, voilà, il serait comme un anonyme au milieu de nous sans que quoi que ce soit puisse attirer nos regards. C'était Jésus. Pourtant, le psaume 45 verset 3 proclame ceci, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et finalement, bien, il révèle quoi ce psaume ? Une beauté intérieure. Celle du cœur. Vous savez, c'est celle dont Pierre parle concernant bien les saintes femmes, les femmes là aussi de l'époque, qu'il encourage à se parer, non pas d'une richesse extérieure, etc., mais d'une parure intérieure. Et Pierre va préciser ceci, il va dire la pureté du cœur, la beauté intérieure cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Amen. Qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et c'est cette pureté de cœur, cette pureté de vie, ce matin, bien, qui fait de Jésus pour nous le bon berger. Qui fait de nous le bon berger. Le bon berger est animé de nobles sentiments à l'égard de son troupeau. On va lire quelques versets d'Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 nous parle de bergers. S'il y a des bons bergers, il y a aussi de mauvais bergers. Et on va lire les deux pour que ce matin nous puissions bien comprendre ce qu'est devenu pour nous, ce qu'est Jésus le bon berger. Ézéchiel 34, verset 11, on va commencer par le bon exemple, c'est celui de Jésus. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau, quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis. Je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Il y a des moments, oui, nous aussi on vit ces moments de ténèbres et d'obscurité. Et on peut se perdre, et on peut s'éparpiller. Mais on a une garantie ici, du bon berger. Je les ferai sortir des divers peuples. Je les rassemblerai de divers pays. Je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau, dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage. Leur domaine se trouvera sur les hauteurs, sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. Elles brouteront dans de riches pâturages sur des montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui était blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Bon, on peut s'interroger sur la dernière partie, on dit, mais pourquoi, Seigneur, hein, celles qui sont grasses et vigoureuses, etc., il devrait aussi bien les traiter. Sauf que quand on lit la suite du texte, eh bien, le Seigneur nous dit que celles-ci, parce qu'elles étaient grasses et vigoureuses, se sont servies de leur force pour mettre des coups de corne aux autres, pour écraser les autres, pour détruire les autres. Voilà pourquoi le bon berger va les traiter aussi avec équité, parce qu'elles ont été animées aussi de mauvais sentiments. Quoi qu'il en soit, le bon berger prend soin de ses brebis avec équité. Il y a plusieurs choses ici, hein, concernant bien la pureté de son cœur, la pureté de sa vie. D'abord, il veille sur nous. C'est pas une mince affaire, hein, de veiller sur nous, hein. Vous dites, oh, quand même, on est adulte, on sait ce qu'on fait, etc., hein. Quand il faut veiller sur nos enfants, ou je me rappelle, ma première colonie de vacances en tant qu'animateur, c'était dans les Vosges, j'avais 21-22 ans, et j'avais la responsabilité de 25 enfants. Ça se fait plus maintenant, hein, on est plusieurs, etc. Et c'était au mois de juillet ou au mois d'août, je sais plus. Et là, au beau milieu de ces... Alors ça allait de 6 ans jusqu'à 14 ans dans le dortoir, vous imaginez un petit peu, hein. Bon, on dormait avec eux, bien sûr, c'était pas, on pouvait pas faire... Et là, on me dit comme ça, juste... Oh, tu sais, Didier, on t'a mis avec... Alors un tel, je connaissais bien, hein. Ben oui, parce qu'il a mis le feu juste avant à une grange, la grange a brûlé, et comme le juge des enfants est en vacances, on l'a mis en colonie de vacances pour le garder, et puis après, on verra avec le juge des enfants. il a fallu veiller sur lui 24 heures sur 24. Je me suis dit, s'il met le feu à la colonie, s'il met le feu au dortoir, etc., etc. Ça a été assez stressant, surtout qu'à l'époque, les colos, c'était 4 semaines, hein, c'était pas 15 jours comme maintenant. Donc, il a fallu veiller sur lui, pourvu qu'il ne mette pas le feu à la colonie de vacances. C'est pas une mince affaire de veiller, même sur nous, et pourtant, bien, Jésus veille sur chacun d'entre nous. Il le fait avec patience, il le fait aussi parfois avec fermeté, parce qu'il dit non, là, tu ne touches pas, tu ne fais pas, etc. Mais Jésus veille sur nous. Il rassemble autour de lui. Jésus est rassembleur. Et ça, c'est ce qui est encourageant. Il n'y a pas de brebis préférée, il n'y a pas de chouchou, mais Jésus rassemble tout son troupeau. Il nous conduit dans le vert pâturage. Il sait exactement ce qu'il y a de meilleur pour nous. Même si nous, parfois, on a l'impression de monter un petit peu, hein, un sol rocailleux, on ne sait pas que derrière, il y a des pâturages. Alors, ben, on n'est pas très, très content, etc. Mais Jésus sait. Il nous conduit dans le vert pâturage. Il va à la recherche de la brebis perdue. On verra tout à l'heure. Il va à la recherche de la brebis perdue. Et quand une brebis se perd, s'égare, veut voir ailleurs, eh bien, il confie son troupeau à un gardien, puis il va à la recherche de la brebis perdue. Et ça, c'est une grande espérance. Nous qui prions pour nos enfants, nos parents, nos proches, il va à la recherche de la brebis perdue. Il soigne celles qui sont blessées. Oui, Jésus est beau en raison de la pureté de son cœur. Hein, c'est le bon samaritain, il soigne celles qui sont blessées. C'est pas toujours agréable de soigner quelqu'un blessé, de faire des soins. D'abord, il y a des protocoles de soins, il faut là aussi les respecter pour qu'il n'y ait pas d'infection, etc. Et pourtant, bien Jésus nous soigne et puis il assiste celles qui sont affaiblies. Il y a des moments dans nos vies où on est plus faible pour toutes sortes de circonstances et pourtant il va nous assister. Alors, le mauvais berger, lui, il l'est en raison de l'état de son cœur. Hein, si on peut lire dans Ézéchiel 34, 1 à 6, eh bien ce qu'est un mauvais berger, eh bien là on a une petite idée. La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, ceux qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. Voilà, c'est le berger qui prend soin que de lui-même. Les brebis, elles font ce qu'elles veulent, etc. C'est pas son problème. Et il est dit ceci ensuite, n'est-ce pas des brebis que les bergers devaient prendre soin ? Vous mangez la graisse, vous habillez de laine, vous abattez des bêtes dodues, vous ne prenez pas soin des brebis, vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages. Elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes, sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. Voilà ce qu'est un mauvais berger. Mais ce matin, eh bien, rappelons-nous que Jésus est le bon berger. Il est celui qui est excellent dans sa nature. Amen. Excellent dans sa nature. Et puis, je termine avec la dernière pensée. Bon, ça veut dire aussi réconfortant. Ça veut dire réconfortant. Bon, ça veut dire réconfortant. Il me semble que j'en avais encore un autre. Je regarde. Ah oui, non, pardon. C'est ça. Bon égale solide. Ben oui, c'est marqué dessus, vous voyez. Hein. Bon, d'abord, ça veut dire solide. Berger, c'est quand même un métier, nous on a l'impression, ben, vous savez, c'était poétique, hein, le berger assis sur son rocher, avec les brebis à ses pieds, les verts pâturages, les petites fleurs, le soleil, etc. Et tout va bien. Oui, mais ça, ce sont des conditions qui peuvent arriver. Hein, mais berger, c'est un métier, une vocation qui est exigeante. Des conditions géographiques, climatiques, les prédateurs, la conduite, la connaissance du troupeau, etc., les soins. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'énergie. Et Jésus, c'est le solide berger. C'est le solide berger. Solide, on va en parler justement, pour aller chercher la brebis perdue. Quand nous, on lit, ben, il va chercher la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules et puis il rentre, d'accord. J'ai juste regardé le poids d'une brebis. À votre avis, une brebis. Allez. Ça dépend l'âge, très bien. Mais encore. T'as raison. Ça dépend de la laine. C'est l'étendue ou pas. Voilà. On dit entre 40 et 80 kilos. Eh oui, quand même.
Non.
Si. Ah, ben, entre 40 et 80 kilos. Ça dépend de la race, etc., etc. Et il est dit que quand il va chercher la brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Ferait un test, hein? 40, comment? C'est un agneau. Moi, j'ai marqué une brebis. Il la met avec joie sur ses... entre 40 et 80 kilos. Bon, faut quand même être solide, hein? C'est pas l'autoroute dans les montagnes, etc. Il y a des rochers, il y a des bosquets, etc. Et il la met à... Seigneur, quand tu viens me chercher et quand je suis complètement, excusez-moi, à la ramasse et un poids mort, eh bien, tu me mets sur tes épaules avec joie. Avec joie. Bon berger est solide pour aller chercher la brebis perdue. Le bon berger est solide pour défendre son troupeau. Vous vous rappelez ce qu'un certain David va dire? Moi, il me fascine, David. Hein. C'est un berger, un jeune berger. Et il dit à Saül, qui le trouve un peu jeune pour les combats de Goliath, 1 Samuel 17, « Quand un lion ou un ours, même si c'est un petit, hein, un lion ou un ours vient pour enlever une brebis de mon troupeau, je cours après lui. C'est fantastique, j'ai dit. Il y a deux options pour ce lion ou cet ours. Je cours après lui, je le frappe et j'arrache la brebis de sa gueule. Voilà, il repart sans rien du tout. Par contre, s'il m'attaque, je l'attrape par la gorge, je le frappe et je le tue. Vous vous rendez compte ? Allez attraper un ours ou un lion par la gorge, vous. Hein ? Ben moi, je me sauve en courant bien avant. Hein ? Et il faut être solide, là aussi, pour défendre son troupeau. Et Jésus, ce matin, est solide pour nous défendre. Amen. Pour nous sécuriser, pour nous garder, pour nous protéger. Jésus est solide. Et puis, il faut être solide aussi pour conduire son troupeau, bien sûr, en tout temps, en toutes circonstances. On l'a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 34, eh bien les conditions climatiques, géographiques, etc., les marches, les veilles, la nuit, tout cela, eh bien, sont une qualité que le berger doit avoir. Il doit être solide. Ce matin, Jésus, le bon berger, c'est le rocher de notre vie sur lequel on peut s'appuyer. Amen. Il est solide pour aller nous chercher quand on est perdu. Il est solide pour nous protéger, pour nous garder. Il est solide pour nous conduire avec patience vers de bons pâturages. Et puis là, je termine, puisque c'est le dernier point. Bon, c'est également, et ça veut dire réconfortant. Réconfortant. J'ai lu, en préparant le message, quelques commentaires, justement, sur la manière de gagner la confiance des brebis. À ce qui paraît, ce sont quand même des animaux assez craintifs. Hein, ils n'accordent pas la confiance comme cela, rapidement. Et quelqu'un écrivait dans les commentaires ceci. Eh bien, le meilleur moyen, c'est se mettre à leur niveau. C'est très important. Alors certains conseillaient de s'asseoir, de même dormir, de mettre le sac de couchage là au milieu des brebis, puis de dormir avec elles pendant plusieurs nuits pour qu'elles viennent d'elles-mêmes, pour qu'elles puissent ainsi ne pas considérer, comme il est dit ici, qu'on nous voit comme une menace. Qu'on nous voit comme une menace. Se mettre à leur niveau pour qu'on ne soit pas considéré comme une menace. Ah ben, c'est ce que Jésus fait avec nous pour nous réconforter. Il se met à notre niveau. Non pas qu'on va le considérer comme une menace, bien entendu, mais il va se mettre à notre niveau pour que bien, nous puissions là aussi ouvrir notre cœur, pour que nous puissions bien, lui faire confiance, pour que nous puissions là aussi, bien, ce matin, dire « C'est vrai, Seigneur, je me blottis là, dans ta présence. Fais-moi grâce. » Hein, on connaît Jean, l'apôtre de l'amour, qui pouvait dormir là aussi, mettre sa tête sur la poitrine du maître. Il y a les disciples d'Emmaüs, deux exemples pour conclure. Hein, vous vous rappelez dans Luc 24, ils repartent bien sûr de Jérusalem, Jésus vient d'être crucifié, etc. Et ils sont tristes, ils sont déçus, ils sont découragés, ils sont interrogatifs, etc. etc. Et Jésus va les réconforter. Comment ? Eh bien, d'abord, il va leur expliquer les Écritures. Et puis ensuite, il va rester avec eux. Et puis ensuite, il va partager un repas avec eux au cours duquel il y aura la fraction du pain, bien sûr. Mais finalement, Jésus va les réconforter corps, âme et esprit. Jésus n'a rien oublié. Et ainsi, il leur donnait le réconfort dont ils avaient besoin. On se souvient que là aussi, pendant cette période, Pierre dit, qu'est-ce que je veux qu'on fasse maintenant ? Allons pêcher. Voilà, c'est dans Jean, hein, chapitre 21, et ils vont pêcher, un peu désappointés, désabusés, voilà, Jésus est mort, etc. Et alors ils vont pêcher, une pêche infructueuse, voilà, une parole de Jésus, mais jetez le filet sur le côté de la barque, là, et vous trouverez. Et là, à ce moment-là, bien Pierre se rend compte que c'est le Seigneur, et en arrivant sur la plage, vous vous rappelez ? Jésus, excusez-moi, qui s'est transformé en cuisinier. C'est l'époque des barbecues, hein, bientôt. Hein. Jésus, d'une manière très concrète, très pratique, va prendre soin là, de ces hommes qui ont galéré toute la nuit. Ils viennent de prendre quand même, ils sont contents. Il y a du poisson qui est frit, il y a un bon feu pour les réconforter. Jésus va les réconforter. Ce matin, bien le bon berger, il réconforte. Amen. Il nous réconforte. Et il le fait, bien sûr, d'une manière parfaite. Alors, pour conclure, hein, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser au psaume 23, hein, bien sûr, vous le connaissez là aussi. Et ce psaume écrit par David, qui était berger, qui nous parle du grand berger. Et déjà, David, par le Saint-Esprit, avait associé le grand berger à l'Éternel. hein, l'Éternel est mon berger. Et je me dis que nous, eh bien, ce matin, nous avons une révélation supérieure parce que nous connaissons désormais, on peut mettre un nom sur l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus le bon berger. Et il y a une dimension encore beaucoup plus profonde pour nous, avec cette dernière promesse, et on peut terminer par là, autour et on pourra prendre la Sainte Cène ce matin, avec une dernière promesse concernant Jésus le bon berger. Encore après, alors on connaît hein, tout ce texte, mais voilà, c'est le verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la bergerie céleste, jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Parce que Jésus, ce matin, est devenu pour nous le bon berger. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive sur cette terre, quelle que soit la manière dont nous quitterons cette terre, eh bien, nous avons cette assurance que nous habiterons dans la bergerie céleste jusqu'à la fin, dans l'éternité, jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Alors ce matin, eh bien, rendons grâce à Jésus, au Seigneur. Il est vraiment le bon berger.